Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Et si le magazine Time s'était trompé? Et si l'homme de l'année n'était pas Donald Trump, mais Vladimir Poutine? C'est en tout cas l'avis de Guy Verhofstadt, président de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, dans une tribune qu'il a publiée aujourd'hui, dans le journal Le Monde, tribune intitulée « Résistons à la guerre hybride que Poutine mène à l'Occident ». Il y décrit ce qu'il analyse comme une guerre menée par le Kremlin contre l'Europe, les États-Unis, l'OTAN, à base de cyberattaques, de financement de mouvements populistes d'extrême droite, de révisionnisme historique et de campagnes de désinformation. C'est cet aspect qui nous intéresse ce soir. Comment le Kremlin, via les réseaux sociaux, via des médias d'information, certains diront de désinformation, irrigue nos sociétés avec un objectif, saper la confiance dans les autorités occidentales. Et le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter puisque la chaîne RT, Russia Today, déjà très présente en ligne, va ouvrir une antenne en français cette année. En 2017, des fonds ont été débloqués en ce sens par le Kremlin, ce qui inquiète jusqu'à Bruxelles, puisque fin novembre, le Parlement européen a adopté une résolution s'alarmant de la campagne d'intoxication orchestrée par le Kremlin. Alors, la Russie est-elle en train de gagner la guerre de l'information? C'est notre thème du jour. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités dans ce studio. Cécile Vessier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2, auteur de « Les réseaux du Kremlin en France ». On est complètement dans le sujet qui est paru aux éditions Les Petits Matins. C'était l'année dernière, et oui, puisque nous sommes en 2017, c'était en 2016. Ouais. Et puis Françoise Dosset est en face de vous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice d'études à l'EHESS, auteur de « Être opposant dans la Russie » de Vladimir Poutine, édition du Bord de l'eau, paru l'année dernière également. Alors, avant de commencer, mesdames, je voudrais qu'on écoute Jacques Sapir, économiste, qui intervient régulièrement sur ces médias qu'on dit porte-voix du Kremlin. Je lui ai demandé un peu plus tôt cet après-midi s'il avait l'impression de participer à une guerre de l'information et quelle était, selon lui, la ligne éditoriale de ces médias.
Elle est très claire. Il s'agit de valoriser autant qu'ils le peuvent les idées et les positions de la Russie, ce qui me semble tout à fait normal venant d'un organe de presse, qu'il s'agisse d'une télévision ou d'une radio, qui sont des organes de presse d'État. De ce point de vue-là, il est très clair que ces organes de presse entendent présenter sous le meilleur jour possible les positions de la Russie.
Les détracteurs de ces médias parlent d'opérations de désinformation. Qu'en dites-vous?
À ce moment-là, il faudrait considérer que ce que fait France 24, ce que fait Al Jazeera, ce que peuvent faire d'autres chaînes internationales qui sont très largement liées à l'administration américaine en particulier, relèverait aussi de la propagande et de la désinformation. Non, je crois qu'il faut reconnaître que les États ont aujourd'hui besoin d'avoir des moyens d'expression globaux, que ces moyens d'expression globaux présentent des visions qui leur sont favorables, et que d'une certaine manière, c'est au téléspectateur ou à l'auditeur de se faire une idée en écoutant justement la pluralité de ces voix.
Cécile Vessier, alors la Russie, elle mène une opération de désinformation aujourd'hui, une guerre de l'information ou bien de rééquilibrage, comme semble nous le dire Jacques Sapir?
Alors oui, c'est intéressant ce que dit Jacques Sapir, mais je suis vraiment pas du tout d'accord avec lui. C'est-à-dire que sur le principe, bien évidemment, chaque État fait du soft power pour exprimer les choses.
Donc soft power qui est une notion de science politique.
Tout à fait. C'est-à-dire que essayer de se présenter, essayer de se vendre par un certain nombre de moyens, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis. Quand en France, on ouvre des instituts français, ça en fait partie. Quand on a effectivement des radios qui émettent vers l'étranger, ça en fait d'une certaine manière partie, etc. Ceci dit, la question après qui se pose, je dirais, il y a une double question. C'est premièrement l'indépendance des gens qui travaillent dans ces institutions et deuxièmement, ce qu'on appelle donner une image du pays. C'est-à-dire, là, je regardais un petit peu, vous savez, on fait le point un petit peu en fin d'année, et je suis RT, je suis Sputnik, en plus en plusieurs langues, et je me disais, mais finalement, RT n'informe plus sur la Russie. RT n'informe plus, il y a très peu d'informations sur la Russie, il y a énormément d'informations sur toutes les bombes qui claquent dans le monde. Dès qu'il y a un attentat, on est prévenu dans le monde, on est prévenu par RT, tous les problèmes de migrants dans le monde apparaissent sur les les réseaux RT, alors que ce soit en français, en allemand, en anglais, etc., ça apparaît, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'informations
donc
sur la Russie.
Donc en fait, plutôt que de lisser l'image de la Russie, on détruit celle des autres
absolument,
États, c'est ce que vous voulez
absolument.
Nous dire.
Absolument. Et c'est là où, pour moi, non, ce n'est pas un média qui donnerait à voir un point de vue, c'est un média qui détruit, effectivement, et qui suscite les peurs. Et on sait très bien que quand on joue sur les peurs, je dirais, en partie justifiées, mais là, complètement accrues, des auditeurs ou du public, à savoir la peur des attentats et la peur des migrants, les gens deviennent très manipulables.
Françoise Dosset, vous êtes d'accord avec Cécile Vessier? C'est pas du soft power, en fait?
Oui, effectivement, je suis d'accord avec ce que vient de dire Cécile Vessier. Je pense que la façon dont les médias, ces médias russes traitent l'actualité, c'est à la manière d'une instruction à charge contre les pays occidentaux, contre leurs dirigeants, contre leurs évolutions. Et ça, effectivement, ça pose question sur la façon dont ils conçoivent le métier même de journaliste. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de journalisme au fond, puisque l'un des principes du journalisme, c'est précisément d'avoir un traitement contradictoire, disons, de l'actualité et de présenter différents points de vue, ce qui n'est pas le cas dans ces médias.
Oui, j'ai le slogan de Spoutnik, juste pour nos auditeurs, dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. Ça fait un peu penser au slogan du Front National, il y a quelques années finalement.
Voilà, et d'une certaine façon, c'est là où ça devient intéressant. C'est aussi comment au fond cette offre d'actualité partielle rencontre une demande. Et c'est là aussi ça nous interroge sur nos propres sociétés, c'est-à-dire qu'effectivement la Russie apporte une offre de réinformation, enfin ce qu'ils appellent la réinformation, et surtout ça c'est repris, c'est diffusé, diffusé sur les réseaux sociaux par des internautes qui eux ne sont pas russes et ne sont pas forcément à la solde du gouvernement russe, qui sont des membres de pouvoir de partis politiques ou de mouvements politiques radicaux en France et dont on sait qu'ils se situent plutôt aux extrêmes de l'échiquier politique. Donc ce qui est intéressant, c'est la rencontre au fond de cette offre d'un côté, cette demande de l'autre, et ce qu'elle dit aussi de nos propres sociétés, ce qu'elle dit de la Russie et de nos propres sociétés.
Alors deux chiffres pour que ce soit bien clair, effectivement RT ce sont 245 000 abonnements sur Facebook, Spoutnik 262 000, donc c'est effectivement considérable. Cécile Vessier, pour rebondir sur ce que vient de nous dire Françoise Dosset, est-ce qu'on sait qui lit, qui écoute, puisqu'il s'agit d'une radio et d'un site internet et bientôt d'une télévision, qui regarde ces médias en France et ailleurs dans le monde? Ce sont des gens qui savent qui lisent ou pas?
Je dirais c'est un petit peu compliqué parce que y a des gens qui sont parfaitement de bonne foi. Je dirais il y a par exemple nos étudiants des fois qui arrivent en disant, vous savez, en plus les étudiants de première année veulent s'informer sur la Russie, ils cherchent des médias en français sur la Russie, ben finalement ils tombent sur quoi? Ils tombent sur ces médias d'information. Donc on a des gens. Alors moi je commence à intégrer dans mes cours justement, et je pense que tous les enseignants doivent le faire, des cours sur la désinformation. Donc on a des gens absolument de bonne foi qui ensuite viennent vous raconter des horreurs épouvantables, et puis on a ce dont Françoise parlait, c'est-à-dire effectivement tous ces extrémistes de droite et de gauche avec ce discours de « on ne nous dit rien ». Alors il y a des jolis termes, les médias salopes qui nous désinforment, etc., etc. Donc ça embraye là-dessus sur ce manque de confiance à l'égard des médias officiels, à l'égard de ce qu'ils appellent les élites, à l'égard de ce qu'ils appellent l'oligarchie. Et alors ce qui fait d'ailleurs un petit peu sourire, parce que quand on connaît la Russie, on sait très bien qu'il y a des médias qui sont complètement verrouillés, qu'il y a des oligarques qui ont, je dirais, tous les pouvoirs, c'est-à-dire que c'est absolument pas ce qu'ils imaginent quand ils lisent ces médias. Mais ils s'en fichent un petit peu, c'est-à-dire que ce sont souvent des gens qui sont très loin de la Russie et qui vont dire « Ah ben voilà, on nous dit enfin des choses sur les attentats, sur les migrants, sur les dirigeants. »
Et pourtant, quand même, en regardant, puisque j'ai regardé aujourd'hui quelles étaient les unes de ces médias, on a l'impression que finalement, cette désinformation dont vous parlez, elle est parfois dilué, c'est pas si clair. Quand on tombe aujourd'hui sur la page de RT, il y a aussi des articles qui sont plutôt factuels, Florence Dosset.
Oui, alors c'est un grand mélange ce qu'il y a sur RT ou sur Spoutnik, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des articles très pro-russes, très favorables aux positions du gouvernement russe, il y a aussi des articles plus modérés, et puis il y a aussi des photos de chats, des faits divers complètement anecdotiques, etc. Donc en fait, chacun peut aussi aller y puiser un petit peu ce qu'il veut. Ce qui me semble important de dire, c'est aussi que malgré tout, l'audience de Spoutnik est quand même pas une audience gigantesque par rapport quand même aux grands médias français nationaux. Enfin, je veux dire, si on regarde la place du Monde, par exemple, dans les classements de la fréquentation en ligne, hein, le Monde est quand même très très largement devant Spoutnik. Le Monde est à la 15e place, Spoutnik doit être à 285e. Donc voilà, il faut quand même relativiser un petit peu les choses. Là où ça devient plus compliqué, c'est en termes de diffusion sur les réseaux sociaux, où là, on ne sait pas très bien...
Parce qu'ils vont très vite, ils sont très réactifs sur les réseaux sociaux.
Et surtout, il y a un certain nombre de personnages qui servent un petit peu d'intermédiaires, de traducteurs, et qui vont relayer l'information, la faire circuler, et voilà. Et là, sur les médias sociaux, c'est plus compliqué, avec aussi là des phénomènes qu'on a plus de mal à identifier, que sont tous les phénomènes de trolling, c'est-à-dire d'internautes malveillants qui circulent sur les réseaux sociaux qu'on connaît moins bien, en fait.
Mais je crois d'une certaine manière que ça rend en fait ce système encore plus dangereux, c'est-à-dire que effectivement, il y a relativement peu d'abonnés, vous avez donné les chiffres, mais finalement, on les rencontre partout, c'est-à-dire que dès qu'on est un petit peu sur les réseaux sociaux, on retrouve un certain type de discours qui va depuis, j'irai la personne de toute bonne foi, jusqu'à certains, on retrouve ça chez Jacques Sapir, par exemple, puisqu'on l'a écouté au départ.
Et chez des hommes politiques qui font campagne en ce moment, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon peuvent aussi...
Absolument. Et c'est là où, en fait, on a l'impression que c'est négligeable, parce que ça n'a pas... parce que d'abord, on se dit souvent, c'est assez mal fait. C'est un peu naïf, c'est pas terrible, justement, il n'y a pas de débat riche, il n'y a pas de débat contradictoire. Mais comme il y a tout ce réseau d'internautes dont, et je pense que tu as tout à fait raison de le dire, des personnes clés qui en fait réarticulent, qui organisent, par exemple, on voit très très bien se créer des pages Facebook ou des groupes Facebook qui ont pour charge de, à mon sens, que ce soit, je dirais, volontaire ou professionnel, je dirais ça, je ne m'engagerai pas, de répercuter ce type d'informations qui sont ensuite repris. Et donc, du coup, on a un système qu'on ne peut pas analyser comme les médias, entre guillemets, traditionnels, c'est-à-dire en fonction, justement, d'audiences qui sont vues, je dirais, de manière scientifique. Et ce qui explique, finalement, cette prise de conscience assez tardive par l'Europe, qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui effectivement rencontre les faiblesses de nos démocraties, les incertitudes actuelles, et que c'était quelque chose qui était éventuellement dangereux.
Alors effectivement, vous dites une prise en compte assez tardive, ça date de quand? Est-ce qu'il y a eu une décision, on dit beaucoup, 2013, avec la fin d'une agence de presse qui a été dissoute, je crois, par Vladimir Poutine? Ça date de quand, cette volonté de lancer cette offensive de désinformation?
Je pense qu'il faut remettre les choses un petit peu en perspective historique, c'est-à-dire que la présence médiatique soviétique puis russe dans le monde occidental, elle n'est pas non plus complètement nouvelle. Hein. Oui. Déjà à l'époque soviétique, il y avait énormément de médias, alors soit des médias papier qui étaient traduits en français, il y avait un certain nombre de revues soviétiques traduites en français, et il y avait aussi Radio Moscou qui ensuite est devenue la voix de la Russie. Donc c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, et cette présence médiatique, elle est ancienne, et elle était aussi réciproque, c'est-à-dire qu'il y avait une présence médiatique occidentale en direction de l'URSS, avec Radio Free Europe, voilà, Radio Liberté, qui était financée par les Américains. Donc, je dirais que, ça, c'est pas complètement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'effet d'amplification produit par Internet. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue de nouveau avec Internet, qu'il faut comprendre et analyser. C'est un effet d'amplification. Au départ, la rhétorique autour d'Internet, c'était que Internet était un grand outil de démocratisation qui allait permettre le pluralisme du débat, un nouveau débat public.
Ouais, on en a parlé la semaine dernière avec Facebook, Twitter, dans l'élection américaine. Voilà.
Livres qui sortaient il y a quelques années, c'était la démocratie Internet. Pensait précisément qu'en Russie, Internet, au moment des printemps arabes, Internet allait favoriser la démocratie. Or là, on est aussi dans un contexte d'interrogation plus général sur qu'est-ce que produit Internet sur nos sociétés? Et on voit aussi tous les effets de surveillance, et qui sont pas propres à la Russie, les effets des informations, les effets de déstructuration du lien social lié à Internet.
Et alors justement, au niveau des conséquences, qu'est-ce qu'on peut craindre de cette offensive finalement de désinformation qui vient de la Russie? Est-ce qu'il faut craindre une offensive russe lors de la présidentielle en France, en Allemagne? La 2017 sera riche en scrutin. Cécile Vessier, vous y voyez quel type de danger?
Écoutez, de toute manière, ça a déjà été annoncé, c'est-à-dire que Madame Merkel elle-même a dit on craint une offensive de l'État russe qui passera par différents moyens. Alors moi, je voudrais juste revenir sur une petite chose qui vient d'être dite. C'est-à-dire que effectivement, ce qui est nouveau, c'est la répercussion par les réseaux sociaux. Il y a quand même une chose qui est nouvelle par rapport aux techniques anciennes, à la Voix de la Russie, à Radio Moscou, etc. C'est que on a l'introduction qui n'existait pas avant, de fake absolument monstrueux. Je vais vous donner des exemples. Quand oui. cet avion Malaysian Airlines est tombé, pas celui qui est tombé autour de... si, celui qui est tombé au-dessus de l'Ukraine. Quand il est tombé, on a vu apparaître sur Russia Today des textes absolument hallucinants disant, par un auteur, je dirais, connu en français de ce média, qui disait, mais vous savez, en fait, quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que tous les passagers étaient déjà morts quand ils étaient entrés dans l'avion. Et qu'en fait, alors il y avait toute une espèce de construction absolument hallucinante de
ces textes. Donc le recours aux tests complotistes, on va bien plus loin que de dire voilà la version russe de l'événement.
Absolument. On invente des choses. Et ce qui n'existait pas à l'époque soviétique, c'est-à-dire qu'ils allaient effectivement en donner leur, un petit peu leur version, se donner la bonne part, etc. Et ça, moi je trouve que c'est extrêmement dangereux parce que on est en train d'entrer dans un monde et Trump a aussi beaucoup joué là-dessus.
Oui, où finalement tout est sujet à débat. Juste, je voudrais revenir sur les conséquences. Qu'est-ce qu'on peut craindre, en fait? Vous nous disiez, ils ont, finalement, le Kremlin a des candidats. Donc, ça veut dire quoi? Ils veulent certains candidats qui leur sont favorables. Ils sont dans une opération de discrédit de certains autres candidats. Qu'est-ce qui peut se passer, Françoise Dossé?
Oui, alors, je pense qu'effectivement, ils soutiennent des candidats qui sont proches de leur position. Et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi l'aspect d'adhésion intellectuelle et idéologique au projet russe. C'est-à-dire qu'il faut aussi en tenir compte et y répondre intellectuellement. Avec cette valorisation d'un pouvoir fort. Alors évidemment qui est facile à mettre en avant parce que Vladimir Poutine gouverne la Russie depuis 16 ans, il va peut-être encore la gouverner un certain nombre d'années, donc ça donne effectivement l'image d'un pouvoir fort. Mais le revers de la médaille dont on parle peu, c'est effectivement les effets délétères de la corruption, c'est les inégalités sociales, c'est les problèmes de développement régionaux, etc. Et en fait, on a aussi, enfin je dirais, une part de responsabilité à focaliser sans cesse le débat sur Vladimir Poutine. Il faudrait qu'on arrête un jour de parler de Vladimir Poutine pour parler vraiment de la Russie et de ce qui s'y passe et de, à la fois effectivement de certains succès mais aussi des difficultés quotidiennes que peuvent rencontrer les Russes. Donc la construction de la Russie comme modèle alternatif au modèle démocratique occidental, il faut le déconstruire mais en allant s'intéresser à ce qui se passe vraiment en Russie.
Donc et pour pas lutter, simplement... il faut parler de la Russie différemment. Est-ce qu'il faut aussi agir sur les réseaux sociaux? C'est ce que disait Guy Verhofstadt aujourd'hui, dire qu'il fallait aussi promouvoir la liberté des médias. C'est aussi comme ça qu'on va contrer cette opération de désinformation.
Ben, disons, en fait, parce que le problème, il se pose en France, mais il se pose un petit peu partout en Europe, hein, avec des sensibilités plus ou moins grandes. Dans, aux Pays-Baltes, par exemple, ils ont interdit. C'est, en Ukraine, là, j'étais en Ukraine juste avant Noël, ils ont interdit Russia Today, ils ont interdit ces chaînes en disant, pour nous, ça n'est pas du journalisme, c'est de la propagande d'un État avec lequel on est en guerre, donc on ferme. Alors, effectivement, en France, on n'en est pas tout à fait là. Mais ceci dit, en Grande-Bretagne,
RT a été autorisé par le CSA. Hein.
C'est là où c'est quand même un petit peu étonnant. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce qu'ils regardent? Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut interdire. Hein. Moi, je serais plutôt à dire qu'il faut faire des formations.
Poser le débat, en tout cas, peut-être.
Poser le débat, dire les choses et en tout cas faire des formations. Je remarque que, je crois que c'est l'ambassade russe de Grande-Bretagne qui, ce matin, semblait évoquer la possibilité d'une interdiction de RT en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a... effectivement, que fait-on face à quelque chose qui se fait passer pour du journalisme, qui n'en est pas, et qui descend toutes les valeurs, grosso modo, constructives de nos sociétés.
Et soutenir des contre-médias comme Open Russia qui a été lancé par l'oligarque Khodorkovsky qui veut un peu lutter contre, est-ce que ça peut être efficace ou au contraire contre-productif?
Non, je pense qu'il faut être à l'écoute en fait aussi des journalistes notamment qui luttent en Russie même, c'est-à-dire qu'il y a encore des médias qui essayent de survivre, qui sont des médias alternatifs avec des journalistes qui essayent de porter une autre parole et je pense que d'une certaine façon le malaise que nous on ressent face à cette présence médiatique russe, elle est expérimentée par ces journalistes alternatifs en Russie même, et c'est eux qui savent ce que ça veut dire de se retrouver face à cette machine médiatique extrêmement oppressive. Donc je pense qu'il faut être à l'écoute de ces journalistes, éventuellement les soutenir. Certains d'entre eux ont fait le choix de quitter le pays, de se réfugier en Europe occidentale ou aux États-Unis. Donc il faut être dans le dialogue aussi avec ces voilà ces journalistes et puis ces militants de la société civile qui proposent un autre.
Et je rappelle que RFI émet également en russe. Merci beaucoup à nos deux invités, Cécile Vessier, Françoise Dosset. Merci à Alexandre Serre, Hélène Avril, Sigrid Azeroual. Bonne suite de programme sur RFI.